Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.
Bonsoir à tous. Pour ce mercredi de l'Anthropocène du 10 avril, on enregistre à Archipel, 21 Place des Terreaux. Je suis accompagnée de Florian Fonperry. Nous allons co-animer cette heure devant nous dédiée à la question de la, des usages de la big data, parce que maintenant on parle de big data tellement il y a une masse de données, et dans le sens, dans un sens plutôt positif, hein, dans le sens d'un outil d'amélioration de notre mode de vie, mais aussi de fabrication du commun, qui implique peut-être l'abandon d'une partie de, nos, de notre intimité. Et puis, on parlera également des promesses et des impasses de cette intelligence artificielle. Pour cela, on a trois invités autour de la table. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Hervé Rivano, qui est professeur à l'INSA de Lyon et qui dirige l'équipe commune à INRIA, INSA Lyon Agora.
Bravo.
Après, il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. Nathalie Vernus-Pro, vous êtes responsable de l'unité patrimoine informatique dédiée à la solidarité à la métropole de Lyon. Et puis David Léché-Auchapt, vous êtes administrateur général des données de cette même métropole de Lyon. Et vous êtes d'ailleurs, c'est peut-être notre première question, puisque vous avez tous les deux travaillé sur un même objet, qui est la self-data. Nathalie Vernus-Pro, vous l'avez, vous étiez là au début, hein, dès 2015, et puis ensuite, donc peut-être vous l'avez mise en œuvre, et ou en tout cas pensée ou co-pensée évidemment avec toute une série de personnes. Et David Léché-Auchapt, aujourd'hui vous mettez en œuvre, vous poursuivez le travail. Alors peut-être une première question sur ce contexte 2015. Qui vous concerne tous les trois, c'est quelle est l'époque, ces années 2010 à 2020, comment cette époque se situe par rapport à la question des données numériques et de ce qu'une politique publique ou une recherche publique envisage avec ces outils qui sont en train d'arriver massivement.
Allez, je me lance. Donc 2015, j'ai eu la chance, de prendre un tout nouveau poste à la métropole de Lyon, qui était le poste d'administrateur général des données. C'était une première en France, et ça montre tout l'intérêt que cette collectivité a porté assez tôt à la question de la donnée et de la manière dont on pouvait la diffuser. Alors je rends tout de suite hommage à David, qui est à côté de moi, David Léché-Auchapt, qui a pris ma suite en 2010. 23, oui, voilà, j'en perds les dates. Et donc, qui a vraiment poursuivi cette démarche de la collectivité qui était de dire la donnée que l'on produit en tant que collectivité, on doit la partager. Alors, elle l'a fait dès 2012, donc c'est une collectivité qui était à l'avant-garde sur cet accès à la donnée. Mais elle a tout de suite compris qu'il fallait qu'elle entraîne tout l'écosystème local. Et c'est le lien que je vais opérer avec Hervé, c'est que d'emblée, il a été question d'ouvrir la donnée avec des envies de nouveaux usages, des usages innovants au service des citoyens. Et il y a eu un travail d'emblée fait avec les acteurs privés, des entreprises qui souhaitaient elles aussi, pourquoi pas, ouvrir leurs données. Et puis inclure d'emblée le monde de la recherche, le monde académique. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Hervé Rivano. Et c'est d'inclure également le citoyen, c'est une évidence. Et c'est cette gouvernance qui s'est mise en place qui a fait que d'emblée, on a accéléré cette ouverture. On a créé quand je dis on, c'est parce que c'est toutes des équipes derrière, des équipes techniques, mais aussi des personnes engagées tout simplement dans les directions, dans les métiers de la métropole, comme ceux de la mobilité par exemple, qui se sont mobilisés pour ouvrir cette donnée et la rendre utilisable. Et on a créé donc une plateforme qui s'appelle data.grandlyon.com, qui existe toujours et que porte pleinement David et qui continue à permettre l'ouverture de plus en plus de données. Et puis pour rebondir, donc pour répondre quand même à votre question, 2015, on était vraiment au tout début de cette démarche d'ouverture des données. Et il y a une loi qui a tout changé, qui est la loi pour une République numérique, qui a été votée en 2016, et qui a rendu obligatoire une ouverture par défaut des données produites et collectées par les acteurs publics. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais en tout cas, elle a obligé les collectivités, l'ensemble des collectivités, à accélérer. Et nous, ça nous a fait un levier sur l'ensemble du territoire pour répondre aux demandes du monde académique, justement, aller chercher plus de données pour alimenter les travaux de recherche, créer de nouveaux services. Et pour faire aussi le pont avec ce que vous évoquiez, le self-data, on s'est posé la question collectivement de cette open data, cette ouverture de la donnée. Ça touche la donnée produite par le secteur public, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un pas de recul et dire comment on peut accompagner le citoyen dans l'accès à la donnée plus globalement ? Et comment on peut faire en sorte que ce citoyen se réapproprie notamment ses données personnelles? Et c'est là que vient cette approche plus globale de l'open data, du self-data. Et le self-data, c'est la production, l'exploitation et le partage de la donnée personnelle par les individus, sous leur contrôle et à leur propre fin. Donc on met tout en œuvre pour qu'ils accèdent eux-mêmes à leurs propres données et qu'elles ne soient pas forcément que préemptées par les plateformes monopolistiques, on va dire.
Mais du coup, elles le sont.
Bah, je dirais non. Et non parce que c'est un engagement, parce que je ne veux pas, mais on est beaucoup autour de cette table et un grand nombre de plus en plus à se dire que non, pourquoi on laisserait les plateformes préempter nos données. En ce moment, je lis un livre d'Asma Mala qui s'appelle « Technopolitique » et elle parle... De l'impact de la technologie qui disloque l'intime. Et je trouve que c'est très révélateur. Ne nous laissons pas justement disloquer intimement et faisons en sorte que nos données, on puisse se les réapproprier. Et c'est toute la question de comment le citoyen s'approprie ses propres données, répond à ses propres besoins en diminuant sa dépendance aux plateformes. Et pour ça... David a une solution.
Ah bah, on vous écoute.
Alors peut-être pour illustrer ce que vient de présenter Nathalie. Alors moi, avant d'avoir la chance de prendre la suite de Nathalie au poste d'administrateur général des données, je travaillais du côté de transition énergétique à la métropole de Lyon en tant qu'ingénieur smart grid. C'était l'époque où on parlait beaucoup de smart city, smart grid. Et d'ailleurs, smart grid, nous, on mettait la question de comment les données issues des compteurs communicants, que vous connaissez Linky, Gaspar, etc., qui sont arrivées en avant-première sur le territoire, comment ces données, elles peuvent nous aider à accompagner, à accélérer les actions de transition énergétique sur le territoire. Et parmi les cas d'usage qu'on souhaitait développer, il y avait celui de permettre aux citoyens de s'appuyer sur ces données personnelles, de les récupérer, pour comprendre ce qu'il consomme, pourquoi il le consomme et comment il peut baisser ses factures. Donc on avait un cas d'usage concret, un outil de plus qu'on voulait mettre dans notre boîte à outils d'accompagnement du territoire à la transition énergétique, à la sobriété énergétique. Et on se posait la question de qu'est-ce qu'on fait de ces données personnelles. On était à une époque où on recevait encore des courriers s'émouvant de l'arrivée de Linky avec des craintes autour des données personnelles. Est-ce que je suis espionné quand on récupère ma courbe de charge, etc. Donc on avait besoin d'une réponse concrète pour gérer ces données personnelles et permettre aux citoyens de les utiliser pour son bien propre. Et donc c'est là où on s'est croisé avec Nathalie. J'avais le problème, elle avait la solution. Et donc concrètement, aujourd'hui, les citoyens du Grand Lyon, ils peuvent utiliser un espace numérique personnel, donc de self-data en opposition au big data, hein, que vous avez cité, et ça nous a fait un peu hausser les sourcils, parce que voilà, nous, c'est plutôt cette approche du self-data de comment le citoyen, il récupère ses données et il arrive à les utiliser dans plusieurs outils. Et donc concrètement, cette plateforme, ça permet aux citoyens d'utiliser l'outil sans que nous, métropole ou un prestataire ou autre, ne récupère ces données. Donc on est vraiment dans un modèle qui va complètement à l'opposé des big tech et qu'on souhaite développer le plus possible sur le territoire et on espère demain sur d'autres territoires en France.
Juste une question de précision technique. Ces données, donc elles ne sont accessibles par un mot de passe et une plateforme sécurisée. Donc il n'y a que le citoyen qui peut y accéder.
Absolument. C'est l'image d'une chambre forte dans une banque dans laquelle vous aurez encore un coffre-fort personnel pour chaque client. Il n'y a que le client qui peut accéder à son coffre-fort personnel. Et donc, nous, Métropole, on n'a pas accès, par exemple, à ma courbe de charge, évidemment.
C'est la Suisse, quoi.
La Suisse de
Hervé Rivano, peut-être.
Bah, c'est une start-up française qui porte en partie... et il y a d'autres acteurs français sur ce domaine. Excuse-moi.
Non, mais il y a un point que... Moi, je trouvais très intéressant dans la démarche self-data, c'est qu'il y a, c'est pas simplement on protège les données en les mettant dans un coffre-fort, c'est qu'on donne l'accès à des prestataires privés pour qu'ils viennent faire leurs calculs sur les données chez l'utilisateur pour récupérer l'information qu'ils ont besoin, parce que les services ont besoin de données pour fonctionner. Simplement, ils ont l'habitude, quand ils ont besoin d'un peu, de prendre tout. On verra plus tard, parce que surtout, ça peut faire de l'argent. Tandis que là, l'idée, c'est pas simplement protéger, bunkériser, c'est aussi donner une possibilité, y compris à des petits acteurs, de produire un service sans mettre en danger les utilisateurs. Et c'est ça qui est bien, c'est pas de la protection qui sclérose, en fait. C'est une protection qui permet même éventuellement d'ouvrir à d'autres acteurs qui n'étaient pas complètement accessibles avant, parce que un tout petit de l'énergie, il n'avait pas accès aux données de RDF.
Absolument. Et on parle là, du coup, d'un espace dans lequel on peut croiser quasiment toutes les données personnelles, toutes mes données personnelles, ce que ne sait pas faire aujourd'hui des acteurs, forcément les cités, mais de la Big Tech. Moi, sur mon espace personnel, j'ai mon compte en banque, j'ai mon relevé des impôts, j'ai mon relevé de la CAF, j'ai ma courbe de charge, je peux avoir mon agenda, etc. Donc on est vraiment sur un lieu où il y a un potentiel de création de valeur très important. Et je pense que c'est ça aussi qui compte, hein, c'est qu'on puisse, à partir de cet espace-là, proposer beaucoup de services avec beaucoup de valeur à l'usager.
Alors là, on a eu un petit retour plutôt institutionnel sur l'évolution de l'utilisation de ces données-là. De votre côté, Hervé Rivano, comment est-ce que vous pourriez avoir une lecture historique, encore une fois, de ce sujet, d'un point de vue plutôt de chercheur et d'universitaire ?
J'étais jeune, c'était bien. Non, 2015, c'est effectivement un moment où on se pose beaucoup de questions sur la donnée. Alors moi, moins sur la donnée personnelle, même si c'est une problématique coller, j'ai collaboré avec des gens, j'ai découvert beaucoup de problématiques en discutant, mais c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'était plutôt comment on produit de la donnée, comment on la transporte, plutôt de la côté réseau, et avec tous les enjeux qu'il y a de cette donnée, c'est un outil de transformation technologique, technique, sociétale, politique et environnementale. Et prendre tout ça en compte pour essayer de comprendre quels sont les enjeux qui vont réellement derrière. Des enjeux qui sont pas finis. Le truc, c'est la recherche, on est souvent sur du temps long et avec des phases de décalage par rapport à la réalité. Mais toutes ces problématiques-là, elles arrivent aujourd'hui dans le monde de l'IA. C'est exactement les mêmes. Peut-être l'enjeu de pirater les données personnelles est toujours très très fort sur des données qui sont plus à consonance sociale ou à consonance politique, ou d'être capable de faire des profils d'individus et moins sur la pure marchandisation, parce que ça, c'est réglé, c'est foutu. Il y a la pub qui fait du pognon avec ça, mais il y a encore des leviers d'action, mais la problématique, elle est bien connue. Quoi. La problématique sur je filtre les gens et je fais du profilage, c'est encore un sujet. Mais donc moi, j'étais sur de la donnée qui avait une notion pas tellement individuelle, mais plutôt territoriale. C'est ça qui m'intéressait. Comment on connaît un territoire ? Ce que fait la donnée avec ce territoire ? Ce que fait la donnée avec le rapport du citoyen à son territoire ? Aussi, ça, c'est super intéressant. Et donc, on avait travaillé en particulier ici, avec de guillemets, dans l'école urbaine, sur... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les données environnementales, les données de pollution, notamment, et les dispositifs pour les capter, les reconstruire. On travaille toujours dessus. On avait travaillé sur qu'est-ce que ça change dans le regard des citoyens de savoir, d'avoir une valeur objectivée, peut-être fausse, mais en tout cas numérisée, de la pollution autour par rapport à son ressenti sur le territoire. Par rapport à son ressenti sur les questions politiques que lève la question de la pollution ou des îlots de chaleur urbains, Ah, il fait chaud dans la classe de mon enfant. Ah oui, il fait 42 dans la classe de mon enfant. C'est pas pareil. Et on l'a vu quand Greenpeace avait sorti une carte des points de chaleur dans la ville en mettant les écoles. Ça avait fait un barouf politique assez fort parce que d'un coup, c'était devenu objectivé. Et en ça, la donnée, elle change pas fondamentalement le phénomène, mais elle change le rapport citoyen, le rapport politique au phénomène. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important et intéressant pour moi, au-delà du fait que scientifiquement, j'étais plutôt à faire des machins qui les récupèrent.
Moi, je me rappelle de cette époque, entre 2010-2015, il y avait un enthousiasme très, très, très important sur ces questions de données. Également de la blockchain, qui était une technologie qui arrivait aussi à l'époque, avec une idée, beaucoup de groupes politiques, militants, s'étaient engagés là-dedans, en se disant, grâce à ces nouvelles technologies, il va y avoir un renouvellement démocratique qui va être extrêmement important. Est-ce que cet enthousiasme, aujourd'hui, on n'en est pas un petit peu revenu sur ces questions ?
Alors, moi, ma lecture, c'est de voir que dorénavant, on a intégré, j'espère, c'est peut-être, peut-être une méthode couée, mais en tout cas, ce que je vois dans les collectivités, c'est qu'on a intégré la donnée dans un grand nombre d'usages. Il y a de multiples services. Par exemple, vous pouvez avoir un itinéraire dans une ville où vous allez passer uniquement dans des lieux frais, par exemple, quand, en période de canicule. On vous propose donc les données, c'est le cas de la métropole de Lyon, de l'ensemble des lieux frais. Puis vous avez une cartographie, vous pouvez vous... et puis des usages, il y a qui mêlent aussi, par exemple, l'intelligence artificielle, comment on va identifier potentiellement les conflits d'intérêts dans les délibérations qu'on rédige. Des usages, on les identifie, il y en a des centaines, tous les jours presque. Il y a les chatbots, peu importe. Ce que je vois, c'est que contrairement à 2015, puisqu'on parlait de cette date-là, il y avait vraiment une phase de découverte de la donnée. Dorénavant, et il y avait la volonté d'ouvrir pour voir un peu ce qu'on allait faire. Alors, il y avait des travaux de recherche qui nous prouvaient l'intérêt, la valeur. Il y a des entreprises qui ont monté leur modèle économique en s'appuyant sur des données, en testant leur modèle économique sur des données ouvertes. Donc, c'est une très bonne chose, que ça veut dire que ça a créé de l'emploi en local. Bon, on peut s'appuyer là-dessus. Maintenant, ce qui a beaucoup changé, c'est que les collectivités elles-mêmes, mais les citoyens aussi, ont compris... On se sont réappropriés cette donnée. Et de plus en plus, on voit plutôt des démarches de pilotage des politiques publiques par la donnée. On crée des tableaux de bord, on crée des indicateurs, Et donc, on va plus s'appuyer sur la donnée pour essayer d'adapter les politiques publiques aux besoins qui sont de plus en plus fluctuants des citoyens face à la crise climatique, face à une accélération globalement du temps au quotidien. Donc il y a une vraie réappropriation et peut-être qu'avant, il y avait vraiment un souhait de créer plein d'usages innovants avec des impacts plus ou moins positifs. Là, on est plutôt avec une prise de recul et une grande maturité qui s'est installée dans les acteurs publics, une collaboration avec des acteurs privés qui ont permis aussi d'expérimenter plus de choses, et puis des citoyens qui s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe sur leur territoire et qui vont s'appuyer sur des données. On voit aussi un grand changement au niveau du journalisme. On voit qu'il y a un data journalisme qui s'est mis en place. Ce n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 10 ans. Il y avait un début, et quand on voit les datavis du New York Times ou du Monde, c'est remarquable, et on voit bien que là, ça a beaucoup changé. Donc ça veut dire qu'on peut bien informer avec des données le plus factuelles possible, avec la nuance qu'on peut apporter au fait que les données soient factuelles. Mais en tout cas, il y a un vrai souhait de s'emparer de ces données pour mieux informer, et ça contrebalance toute la désinformation qu'on subit et qu'on subit de plus en plus, notamment au travers d'intelligence artificielle.
Je peux peut-être avoir je ne sais pas si je suis plus pessimiste ou moins pessimiste, je ne sais pas. Je pense qu'on a eu une succession de bulles d'intérêt, de hype. Tu as cité la blockchain, plutôt les crypto-monnaies, et puis après les NFT, qui étaient l'arnaque la plus aboutie, qui n'a pas duré très longtemps. Heureusement, ça s'effondre de temps en temps. La blockchain, pas encore assez. Enfin, les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est dans la bulle de l'IA, pas de l'IA, de l'IA générative. Et puis on verra ce qui va venir derrière. Des bulles, des fois elles crèvent très vite, des fois elles s'étendent un petit peu. Et on a fait cette succession-là. Et donc à chaque fois, une bulle, c'est de l'enthousiasme débridé et des angoisses, des fois hors sol. Et des fois pas du tout hors sol. Mais un peu ce truc-là, exacerbé à chaque fois. Et puis après, on revient sur la réalité, le fait que ça construit, tout ce que vient de dire Nathalie, qui est moins flamboyant. Mais en fait, qui est la vraie progression de la société, petit à petit. On va tuer le sujet des crypto-monnaies assez vite, parce que c'est pas le sujet actuel. Il y a eu une hype énorme autour de sortir des crypto-monnaies pour ne pas être sous la coupe de systèmes bancaires. Et puis là, on a beaucoup parlé des corruptions, des problèmes de systèmes bancaires avec les paradis fiscaux et tout. Puis finalement, la crypto-monnaie, ça sert à financer les mafias, à faire de l'évasion fiscale et à contourner les embargos diplomatiques sur des pays qui polluent à mort quand ils font des choses qui sont extrêmement impactantes pour l'environnement, dont le calcul de crypto-monnaie. L'IA, aujourd'hui, on est sur une autre hype avec tout un truc autour de l'émancipation que ça peut produire, des côtés un peu magiques qu'il y a des résultats, et puis la grosse trouille derrière, est-ce qu'on va être sous la coupe des ordinateurs, est-ce que tout aussi exagéré l'un comme l'autre, pour des intérêts, mon avis, de gens qui viennent à peu près des mêmes endroits, mais des intérêts un petit peu différents. On va voir comment ça va retomber ou comment ça va mûrir, en tout cas. Mais certainement qu'il y aura des usages qui vont se déclencher, il y aura des appropriations sociales qui vont se déclencher. Et c'est ça qui va être finalement intéressant à regarder, plus que savoir si Elon Musk a raison ou tort sur Twitter, qui ne s'appelle plus Twitter.
Sur X,
oui. David, chez Ushap, ce que vous faites, le travail qui est mené, c'est de l'open source, par principe réplicable. Et comment, on en a parlé en préparant cette émission, j'ai cru comprendre que c'était pas si facile, c'était réplicable, mais le fait que ça soit répliqué n'était pas quelque chose de très, très simple. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Exactement. Alors, on a passé une délibération à la métropole de Lyon qui dit que tout ce qu'on produit en interne, logiciel, etc., sera open source, donc sera déposé sur notre forge. Mais en effet, ce qu'on constate, c'est que déposer du code sur une forge, ça ne fait pas la réplication effective. Pour autant, on essaye de se donner des moyens pour arriver à cette réplication. Sur le self-data, par exemple, on est en train de créer ce qu'on appelle un self-data lab qui vise à réunir les acteurs publics et privés aussi pour qu'ils s'emparent de ce concept et de cette solution. Et quelque part, que le bébé nous échappe un peu. Vous parliez tout à l'heure d'abandonner une part de soi, c'est vrai aussi pour la collectivité. Moi, mon souhait le plus cher, c'est que demain, les solutions qu'on a mises en œuvre sur le territoire du Grand Lyon, elles soient répliquées ailleurs sur le territoire et quelque part que ça nous échappe. Il y a des cas qui réussissent aussi, hein, par exemple notre plateforme Open Data. Aujourd'hui, c'est une solution open source qui a été reprise par un éditeur et qui fonctionne sur la région sud, par exemple Data Sud a la même solution que nous. Donc là, on a des cas qui fonctionnent. C'est quelque chose qui a été construit au Grand Lyon, qui a été repris. Donc on voit que dans certains cas, ça existe. Après, il y a aussi la question de comment on crée du commun autour de la donnée. Comment on s'inscrit dans des référentiels de données qui vont au-delà du territoire. Moi, je voulais citer un exemple qui est celui des adresses. Alors les adresses, ça vous paraît peut-être être une donnée de base évidente, etc. Mais aujourd'hui, si vous voulez vous raccorder à la fibre, par exemple, votre nouvelle maison, vous êtes obligé d'avoir une adresse officielle qui est inscrite dans la base d'adresses nationale. Ça, c'est construit par les communes, avec l'accompagnement de la métropole de Lyon et par tous les territoires. Et il y a une question de mise en commun. C'est essentiel si vous voulez être sûr de recevoir votre colis, par exemple, livré, mais encore plus essentiel si vous appelez les pompiers et que vous voulez être sûr qu'ils vous trouvent rapidement. Donc là, on est vraiment dans une logique de comment on crée du commun au-delà du territoire, au niveau national, et on essaye de s'inscrire dans ces communs nationaux. Je cite un autre exemple, c'est le référentiel national des bâtiments, qui aujourd'hui n'existe pas. Quand vous avez un bâtiment en France, chacun a son identifiant, etc. Et donc là, on est en train, au niveau national, de créer ce référentiel national des bâtiments qui va permettre demain de croiser plus facilement des données. Moi, j'ai travaillé sur les questions de transition énergétique. On essayait de récupérer les données des distributeurs d'électricité, de gaz, de chaleur, etc. pour voir tel bâtiment, combien il consomme. Est-ce qu'il y a un enjeu d'efficacité énergétique, de rénovation sur ce bâtiment ? On voit que c'est extrêmement compliqué en fait, de croiser ces données parce que chacun les crée dans son coin avec son langage propre, et donc il y a un intérêt à créer ces référentiels pour qu'on puisse croiser la donnée. C'est là où la donnée va avoir son intérêt, quand on les croise entre elles. Et donc voilà, il y a cette logique, je parlais tout à l'heure des codes et de l'open source, mais aussi sur la création de référentiels, d'arriver à ne pas faire chacun dans son coin, mais à faire ensemble, à faire du commun. Et on est en effet sur des cas d'usage qui sont peut-être un peu moins rutilants que la Smart City, etc. Mais ça, c'est vraiment du concret et c'est des choses qui servent vraiment au quotidien. Et c'est peut-être ça qui reste après les bulles dont on parlait à l'instant.
Alors justement, parce que là, vous venez de parler de Smart City. Hervé Rivano, vous avez donné une masterclass il n'y a pas très longtemps dans la 6e édition du festival à l'école de l'Anthropocène. Et vous avez l'air dubitatif par rapport à cette dénomination qui a eu son heure de gloire. Hein. Enfin, je me rappelle, il y a une époque, dans les années 90, 2000, 2010. Enfin voilà, toutes les villes allaient devenir intelligentes. Est-ce que c'est le cas, en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des... Parce que ça peut être un horizon de vouloir qu'une ville et qu'une communauté, hein, parce qu'une ville, c'est aussi d'abord une communauté, des gens, tout ça devienne plus robuste, pour reprendre les termes d'Olivier Hamon, plutôt qu'efficace. Donc, est-ce que voilà, tout ce travail qui a été opéré par la métropole, enfin par les acteurs de la métropole qui s'en sont chargés, par les chercheurs, etc., est-ce qu'on a produit ici ou ailleurs, hein, des villes plus robustes, notamment face à des crises, à des crises qui se répètent, on le voit bien sanitaire, canicule, social, enfin bon. Donc comment, avec un tout petit peu comme ça de delta, 10 ans, 20 ans de travail.
En très vite, le terme smart city, ce que je racontais, mais ça vient pas de moi, il y a quand même pas mal de gens qui ont analysé ça. En fait, ça a plus été un élément de marketing territorial qu'une réalité politique ou économique. Ça a été un moment de réflexion de assez intense de pas mal d'acteurs, beaucoup privés, qui en reviennent parce que crise économique mondiale, il n'y a personne qui a l'argent pour fabriquer ça. Même là, je ne me souviens plus quel pays du Golfe c'est qui devait faire la ville en ligne. Là.
L'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite, c'est ça, je ne vais pas me tromper. Et ils viennent de diminuer de 90% la taille de la ville.
Ah, quand même.
Juste 90%. ils ont coupé. Voilà. Ils disent, ah, bah non, finalement, ça va être mardi. Mais parce que finalement, ça ne marche pas quand c'est décrété. Et je ne crois pas qu'il y ait eu un moment, à part peut-être, vu ce que ça donnait, le moment des créations des villes nouvelles en France, où le politique a décrété des choses urbaines sans concertation, sans prendre le temps de la construction politique avec des gens.
Et c'est un héritage de la planification par le haut, ça. C'est une autre époque.
Alors, il y a plein de gens qui diraient ça, qui auraient des plaques rouges en entendant URSS. Et puis finalement, le capitalisme fait à peu près la même chose. Et on est là-dessus, ça ne marche pas. Par contre, dans cette phosphoration, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment sur la numérisation, sur ce que ça apporte en termes d'outils pour aller plus loin sur certains aspects. Il y a des choses qu'on ne voyait pas avant, que maintenant on voit. Comme phénomène urbain, des outils qu'on n'avait pas, qui élargissent le champ des possibles. Donc il y a des choses qui sont en train d'arriver. Et notamment, il y a la question de la robustesse, de la résilience, notamment vis-à-vis du changement climatique. On est aux prémices des choses là. Je pense que, peut-être je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'il y a des villes, il y a des endroits où certaines personnes sont convaincu qu'il faut y aller. Mais on en est là, on en est à tracer la ligne blanche des starting blocks. Il y a de la recherche qui se fait, qui commence. Il y a de la recherche sur la résilience des systèmes, il y en a depuis longtemps. Mais là, vraiment, la rendre concrète pour les villes, ça vient. J'espère que ça arrivera à temps. Mais il y a encore des traces dans les systèmes urbains de gestion où chaque fonctionnalité est traitée par son secteur et que croiser les données, les informations, ça vient un peu plus qu'avant. Mais avoir une résilience qui n'est pas une résilience individuelle, mais qui est une résilience systémique, là, on n'y est pas.
Et vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc c'est une technologie qui arrive, dont on parle beaucoup. Est-ce qu'elle peut être utile si on parle de l'intelligence artificielle, comme vous le disiez, au-delà de juste le bot génératif de textuel? Est-ce qu'il y a des applications qui peuvent être intéressantes dans cette optique-là, justement?
Oui, évidemment. Mais déjà, je ne connais pas grand monde qui fasse de la prospection, de la prospective, qui n'utilise pas un moment Excel pour faire une courbe de tendance. Mm-hmm. C'est la base de l'IA. Bon, j'exagère un peu. À un moment, je disais, les boîtes qui vous vendent de l'IA, en fait, ils vous vendent une régression linéaire qui est en fait dans Excel. Mais l'IA, ce n'est pas du tout nouveau. C'est très vieux. Ce qui est nouveau, c'est l'émergence de ChatGPT et ses cousins sur l'IA génératif. Ça, c'est le phénomène nouveau. Mais les outils d'IA existent depuis longtemps. Ils sont en développement constant, permanent. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Il n'y a pas une voiture aujourd'hui qui roule sans IA. Un système de contrôle de vitesse avec un freinage. Il y a une petite IA dedans, pas forcément ChatGPT, heureusement d'ailleurs. Mais un drone ne vole pas sans IA. Ouais. Et, donc oui, il y a ça. Et oui, il va y avoir des choses, notamment, je suis encore un petit peu prudent là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de hype, en particulier dans le monde académique, autour des jumeaux numériques notamment. C'est un beau mot-clé marketing, mais derrière, il y a des choses hyper intéressantes.
Tu peux définir ce que c'est ?
Ouais, très vite. C'est là un couplage entre une simulation, une virtualisation, un truc dans l'ordi qui représente un système, peu importe lequel, et sa version réelle. Et on croise les deux avec de la technologie, des capteurs, de l'ordi, de l'IA, tout ce qu'on veut. L'intérêt de ça, c'est de se dire, j'ai ma représentation, donc mon jumeau numérique, parce qu'il est dans l'ordi, qui est synchronisé avec la réalité. Et là, à ce moment-là, je commence à faire des essais, des tests. Et si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça. Comme ça, un ordi, je peux en faire plein en même temps. D'un coup, j'en vois un, je dis ça, c'est un futur désirable, on va aller par là. Mmh. Ça, c'est intéressant. Dans l'industrie, c'est un truc énorme. C'est maintenance prédictive. Je synchronise ma machine et puis je fais plein de tests et je fais bop, ce paramètre-là, il a l'air tout pas bien, on va pas y aller, ou alors on va aller vérifier la machine en vrai parce que visiblement, il y a un truc qui est pas normal. Sur la ville, faut voir l'ampleur que ça prend, mais ça peut être super intéressant de se dire, j'ai un bon modèle de déplacement cycliste, je regarde ce qui se passe actuellement, je commence à tracer des pistes cyclables, puis je vois ce que ça donne. Parce que j'ai un bon modèle d'évolution des comportements cyclistes. On l'a pas actuellement, ce modèle-là. Si on l'avait, on pourrait faire ça et se dire, bah, finalement, cette piste cyclable-là, elle est vachement mieux que celle l'autre. On a fait ça pendant le Covid avec de la peinture jaune, mais ça prend plus de temps.
Peut-être Nathalie Vernus-Prost ou David Léché-Auchapt sur ces questions de la ville intelligente.
Peut-être juste pour rebondir sur l'IA, c'est vrai que c'est un peu la figure imposée du moment, on l'a dit avant, c'était la blockchain, etc. Pour autant, sur l'IA, on voit qu'il y a des choses beaucoup plus concrètes que la blockchain. Hein. Concrètement, on peut utiliser de l'IA aujourd'hui pour faire son compte-rendu de réunion, etc. Moi, je trouve que l'intérêt, c'est aussi de remettre sur la table, derrière l'IA, les sujets de fond sur la donnée, notamment, la question de qualité de la donnée. À titre d'exemple, nous, on a essayé à la métropole de Lyon d'utiliser l'IA pour prédire le nombre de repas qu'il fallait servir dans les collèges. Nantes l'a fait, par exemple. Ils avaient un historique de données qui leur ont permis de le faire. Nous, on a essayé de le faire. On n'a pas réussi parce qu'en fait, derrière, on n'avait pas la donnée structurée, l'historique, etc. Pour plein de raisons, hein, parce qu'en fait, chaque cantine de collège est différente. Il y en a en régie, d'autres en DSP, etc. Donc, on n'avait pas réussi à récupérer la donnée pour permettre de faire tourner un modèle d'IA. Mais du coup, ça permet aussi de reparler des questions de données, etc. Après, on voit dans le secteur public que l'IA trouve des applications. Hein. Je lisais un rapport du Sénat sur les applications, par exemple, détection de stupéfiants dans les courriers, etc. Ou quelque chose qui a fonctionné sur la détection des piscines pour arriver à trouver les piscines qui n'auraient pas été encore déclarées aux impôts. Voilà, nous, enfin moi, dans les idées qu'on pourrait avoir au sein des collectivités,
même les vides,
ce serait...
Même les vides, parce que bientôt, on aura des piscines vides.
Exactement. On pourrait imaginer détecter les endroits où il y a des changements sur le territoire, des nouvelles routes, etc., pour détecter plus rapidement et mettre à jour nos fonds de plan, qui sont essentiels si on veut faire du calcul, par exemple, de pistes cyclables, d'itinéraires, etc. Il faut qu'on mette à jour notre fonds de plan. Nous, c'est un travail qu'on fait au sein de la métropole de Lyon. On pourrait imaginer demain que l'IA pourrait nous aider à faire ce travail de manière un peu plus simple et rapide.
Alors, ça me fait penser, vous parliez des contrôleurs des impôts qui vérifient des piscines. On a eu quand même le cas, là, très récemment, de la CAF. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui utilise une IA pour détecter les fraudeurs. Et il s'est avéré que cette IA, elle n'est pas vraiment raciste, mais en tout cas, elle ciblerait davantage les plus vulnérables. Donc, ça pose quand même des soucis, des questions en termes de solidarité, en termes de démocratie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors, moi, j'aime à citer l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme. Mmh. La société a le droit de demander des comptes à tout agent de son administration. Et puis, j'aime faire référence aussi à cette fameuse loi que j'ai citée, qui est la loi Lemaire, la loi pour une République numérique, qui oblige à en tout cas, inventorier et à expliquer les algorithmes qui déterminent une situation individuelle et qui sont exploités donc par les acteurs publics. Donc ça nous fait une belle base, presque éthique, en tout cas juridique, pour dire que quand les acteurs publics, les administrations dans leur ensemble ont un devoir d'explicabilité, de redevabilité. Et moi, ça m'a beaucoup interrogée sur la question de l'exploitation de l'intelligence artificielle, puisqu'on est quand même censé expliquer ce que l'on fait et qu'il y a une part d'intelligence artificielle qui, avec le phénomène le fait que c'est qu'il y a un facteur auto-apprenant, on aurait peut-être du mal à expliquer à terme ces outils, puisque ça reste des moyens et pas des fins, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va être capable de l'exploiter pleinement? Et comme l'a dit David, il y a de nombreux exemples extrêmement positifs, enfin, en tout cas positifs, selon aussi d'exploitation de l'intelligence artificielle. Ça, en tout cas, ça m'interroge. J'ai pas je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce que fait, par exemple, la métropole de Montpellier, qui a monté une convention citoyenne autour de l'intelligence artificielle, qui a, de mémoire, fait un tirage au sort au sein de sa population pour qu'il y ait un collectif de citoyens qui s'emparent de ce sujet. Et ça permet justement d'une part de d'acculturer. Je pense qu'il y a un vrai... Si je reviens sur votre question de la Smart City, je pense que ce que ça a amené aussi, c'est une culture du numérique. Il y a un grand nombre d'élus, mais aussi de citoyens, qui ont compris les enjeux du numérique au travers de la grande démarche Smart City, avec les limites qu'elle a pu avoir, avec aussi les points positifs qui ont été cités. Et puis, juste pour revenir sur l'usage d'intelligence artificielle, je disais dernièrement, et ça fait vraiment le pont avec notre sujet d'entrée, l'Anthropocène, l'IGN exploite l'intelligence artificielle pour, sur les images du territoire, les photographies aériennes notamment, pour aller identifier la nature des sols et l'évolution, par exemple, du trait de côte. Pour voir comment nos rivages évoluent au fil des tempêtes et puis pour concrétiser malheureusement les effets du changement climatique. Donc on voit tout l'intérêt de l'intelligence artificielle, mais maintenant il faut absolument qu'on se penche sur la vision politique qu'on en a pour que ça ne soit pas l'idéologie des plateformes mondiales. On a parlé d'Elon, on peut parler de Palantir, on peut parler de Meta avec des modérations qui sont partiales. Voilà, on pourra en dire beaucoup. Mais en tout cas, reprenons, il me semble, il faut que le politique s'empare de l'intelligence artificielle, ce qui commence à être fait. Mais souvent, on voit bien qu'on subit un peu avant de prendre en main et que la seule réponse, c'est la régulation. Elle est nécessaire. Mais il y a aussi comment on appréhende ce sujet. Alors, on a vu, c'est très hype. Ouais, c'est comme un peu la blockchain. Mais je pense que ça va être, je suis assez d'accord avec David, un changement sans doute plus profond. Mais il faut qu'on s'en empare et que ça nous serve plutôt que nous asservir, quoi. Donc ça, c'est essentiel.
Merci. Hervé, peut-être vous voulez rajouter quelque chose?
Un petit truc rapidement. Dans la notion d'IA, on met l'homme pas au bon endroit. Oui. IA, c'est un terme anthropomorphique qui donne l'impression qu'il y a une espèce d'intelligence cachée derrière, alors que non, c'est un outil. Et c'est un outil, et au même titre qu'une tronçonneuse, c'est vachement bien pour couper un arbre, c'est vachement moins bien pour couper un steak. Et il faut juste l'utiliser au bon endroit. Par contre, de l'humain, il y en a. Et c'est peut-être la petite critique que j'ai sur l'article qui a été écrit là en contexte de... Mais qui n'est pas un problème de l'article, qui est un problème général du discours autour de l'IA, c'est à qui profitent les algorithmes. En fait, les algorithmes, c'est pas la bonne question. C'est pas une boîte noire comme on a fait peur aux gens avec Parcoursup et APB à l'époque, en disant « Oh mon Dieu, les algorithmes vont gérer le futur de nos enfants ». Ça, c'est quand même de la grosse pipe, quoi. L'algorithme de l'intelligence artificielle, il est sophistiqué, il est complexe, il y a des maths derrière, il y a des données. Il y a beaucoup de données, il y a un choix politique sur les données qu'on a utilisées pour entraîner les IA. Ça répond à moitié à la question de l'IA de la CAF, elle est à moitié raciste. Ben ouais, les données qui ont nourri sont racistes et ça reproduit les biais sociaux qu'il y a dans les données. Mais il y a aussi des données des hommes et des femmes dans l'entraînement de l'IA. Et ça, c'est ce que Nathalie suggérait dans l'histoire de la modération des plateformes de réseaux sociaux. Mais c'est aussi là où Amazon s'est fait prendre la main dans le sac sur un chatbot où, en fait, il faisait bosser 1000 Indiens en tâche de fond, payer une misère. OpenAI, c'est des millions d'heures de data center africains où les gens étaient payés à la tâche pour dire « ça, c'est une phrase qui ressemble à ce qu'un humain pourrait sortir, ça, c'est une phrase qui ne ressemble pas », pour faire qu'un chatbot soit capable de faire des blagues sur Internet. Il y a des gens au milieu de ça. Il y a une émission magistrale de France Culture sur l'IA en train d'être développée par le ministère de la Justice pour classer les décisions de justice, où il y a des gens, des femmes, parce que sous métier mal payé, répétitif, machin.
J'ai adoré
cette article. Elle est géniale,
montre à quel point, d'abord, ça rejoint la question de la qualité de la donnée, et que cette qualité de la donnée, oui, derrière... Il y a des humains.
Et en plus, des femmes en France quand on les exploite, des Africains quand on est dans l'international, parce que quand même, ça coûte moins cher que les femmes en France. Il faut vraiment se mettre ça en tête derrière. C'est un capitaliste sauvage qui exploite les failles du système pour aller faire, pas de l'argent, parce que ça en coûte encore beaucoup. Donc du coup, il faut se poser la question de quels sont les intérêts politiques et financiers qu'il y a derrière, parce qu'il y a une vraie question sur comment on a dépensé autant d'argent pour faire tourner un truc qui n'est pas rentable et qui ne le sera pas avant un petit bout de temps. Et puis le dernier point qu'on n'a pas encore traité, c'est l'impact environnemental de ces trucs-là. qui est colossal. En regard des usages et des intérêts qu'il y a, ça pose une question qui est vraiment complexe parce qu'après, il faudrait savoir qui peut dire quel est un bon usage ou un mauvais usage. Mais il y a clairement des usages qui semblent un peu plus raisonnablement désirables que d'autres. Moi, que des radiologues se servent de l'IA pour détecter des tumeurs sur une radio beaucoup mieux que ce qu'eux sont capables de faire, très bien, c'est parfait, ou pour les cotes, et etc. Prendre une IA pour faire un truc qu'on sait faire nous-mêmes, un résumé de texte, peut-être un peu, je sais pas, pour aller faire de la détection faciale pour suivre des gens dans une manif, voilà. Désolé pour Darmanin, mais non.
Mais, enfin, l'argument à chaque fois, c'est de dire qu'en fait, s'il n'y a pas toutes ces applications commerciales, il n'y a pas assez d'argent pour développer les applications qui sont intéressantes et utiles.
Mais il n'y a pas d'argent.
Du tout.
Là. Google est en train de dire, peut-être on va commencer à faire payer les gens qui utilisent Gemini parce qu'on n'est pas rentable. Parce que derrière, il faut une centrale nucléaire pour faire tourner le modèle qu'ils ont.
Mais c'est de l'investissement. Ils espèrent être rentables avec ça à terme.
Peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr.
Et justement, vous parliez de vidéosurveillance. Moi, ça m'intéresse aussi. À la ville de Lyon, ça a été mis en place. Comment est-ce qu'on gère ces données de vidéosurveillance ?
Alors nous, on travaille à la métropole de
Lyon. À la métropole, pardon.
Et donc, ça n'est pas notre compétence.
Et ben voilà, c'est une question qui tombe à l'eau.
Ça tombe à l'eau.
Facile quand même.
On se pilote, mais
ouais. Non, mais j'avais une question tout à l'heure. Vous avez parlé... vous avez remis la question de l'humain, évidemment, derrière les algorithmes et derrière toute cette intelligence qui est fabriquée, etc. Et vous avez pointé du doigt collectivement, voilà, les GAFAM, quoi. Mais moi, j'ai un petit doute de citoyenne. C'est-à-dire, je me dis que le politique s'empare quand même furieusement de cette affaire. Alors, j'ai autant de méfiance. Je sais pas, Vladimir Poutine, Elon Musk, enfin, mon cœur, enfin, j'hésite, quoi. Vous voyez, c'est, voilà. Donc, quand nous, citoyens, on a lâché ces données au service d'un projet auquel nous adhérons en open source, etc., il y a évidemment aucun problème. Enfin, j'adhère et je suis prête à abandonner un peu de mon temps, de ma valeur pour même contribuer à ces choses-là, y compris à mon insu. Mais tout ça est très fluctuant, tout ça. Et les hommes et les femmes politiques se succèdent et on n'a aucun... enfin, on ne peut pas se protéger, en fait. Tout ça est très anxiogène, malgré tout, pour nous, citoyens, même si, au bout du compte, il se passe beaucoup de choses intéressantes qui nous revient aussi.
Ce qui est très rassurant, c'est qu'entre, on va dire, les deux... je crois que j'ai vu le terme de big state. Enfin, en tout cas, ces États qui sont majeurs dans les technologies, qui sont d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine. Et bien, au milieu, on a l'Europe. Et je trouve ça très rassurant. Et j'aime à croire que toute la réglementation qui est en train d'être mise en place, alors DSA, DMA, Data Act, Data Governance Act, IA Act, bon, j'arrête. Hein. Mais en tout cas, toute cette réglementation-là... souvent, elle fait référence au RGPD. Et tout ça, ça va quand même dans un sens de la protection du citoyen et surtout de la garantie que, oui, le citoyen a des droits sur ses données personnelles. Et j'aime à croire qu'on va montrer une autre voie. On a un ambassadeur du numérique, Henri Verdier. On a un Thierry Breton, voilà. On a des gens qui sont engagés et qui font en sorte qu'on ait quand même la main sur nos données. Alors, il y a des visions plus ou moins capitalistiques, parce qu'effectivement, il y a quand même une vocation économique. Mais malgré tout, la CNIL a montré la voie en France. C'est la CNIL qui a servi en fait de socle à la construction du RGPD, hein, qui est un règlement de protection des données personnelles. Et donc tout ça, ça veut dire que quelque part, oui, bien sûr qu'il y a des risques, bien sûr qu'il y a des États totalitaires et que la donnée peut exploiter. Mais il y a effectivement en Europe un système de protection qui est quand même remarquable et j'espère qu'il va perdurer. On voit qu'au niveau européen, on s'en est emparé avec une France qui a montré quand même l'exemple. Et puis il y a une autre voie, on l'a un peu évoqué, c'est la question des communs numériques avec des citoyens qui s'emparent de ce sujet du numérique, qui ne veulent pas être qui ne veulent pas subir, je réemploie ce terme, et qui s'investissent personnellement pour co-construire des solutions qui, justement, ne les coupent pas de leurs propres bénéfices et qui vont dans le sens de la préservation de l'environnement, de l'accès aux droits. Il y a un collectif qui s'appelle la Société des communs, qui a édicté un certain nombre de propositions qui sont vraiment très intéressantes, et notamment, par exemple, d'inscrire le droit à la contribution au commun dans le droit du travail, c'est-à-dire de proposer aux gens d'avoir un droit à contribution. Et on peut citer, David le ferait mieux que moi, hein, OpenStreetMap, par exemple, qui est une cartographie mondiale qui est produite par des contributeurs volontaires, bénévoles, et qui est une vraie alternative à Google, à d'autres cartos, mais peu importe, celle d'Apple, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est une cartographie et des données ouvertes qui montrent qu'il y a d'autres voies possibles et qu'on peut s'emparer, nous, presque en s'abstenant d'un contexte politique et de proposer des solutions qui sont ouvertes et réutilisables en toute liberté.
Mais justement, le contexte politique, sans aller jusqu'aux États-Unis ou en Russie, même en Europe, on voit qu'il n'est pas forcément extrêmement réjouissant actuellement. Et que des partis, pour ne pas les citer, mais plutôt d'extrême droite, pourraient prendre le pouvoir dans certains pays. Comment est-ce que cette infrastructure juridique que vous venez de citer, elle est suffisamment robuste, suffisamment solide pour ne pas, pour protéger en fait nos données face à des gouvernements qui voudraient en faire des choses pas forcément réjouissantes?
Mais je pense qu'elle n'a pas à l'être. C'est la démocratie qui protège. C'est pas si le citoyen décide qu'il faut aller vers l'extrême droite. Mmh. Tant pis pour nous, tant pis pour lui. À un moment, la démocratie, c'est ça aussi, c'est qu'il faut laisser au peuple le droit de se tromper, de faire des choix qui ne sont pas les nôtres. Si finalement on dit, le système, il permet de faire ce que nous, on pense qu'il faut faire, parce qu'on est bien, mais surtout pas le reste, c'est plus de la démocratie. Donc il y a ce truc-là. Et moi, je crois beaucoup plus à la démocratie qu'aux hommes politiques qui sont élus dans la démocratie. Par contre, ça veut dire que, et c'est là où j'ai le petit côté pessimiste, c'est qu'il faut éduquer beaucoup, que les enjeux numériques sont complexes à faire passer, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que Masterclass, c'est pour ça que plein de choses. C'est pour ça que je suis investi aussi dans une chaire à Sciences Po, parce que les personnels politiques, il y en a plein qui ont découvert ça, il y en a beaucoup qui sont incultes numériquement, et que c'est bien que leur staff ne le soit pas, lui, parce que ces enjeux-là vont se poser. Alors quand on a la chance d'être à la métropole de Lyon, on a une collectivité qui a les moyens d'avoir des agents qui sont de gros calibre sur ces questions-là, qui sont capables d'avoir une pensée au-delà de la question technique, mais aussi des outils techniques. Alors, si on est dans une petite collectivité à côté, c'est beaucoup plus dur. Et puis, il faut pouvoir, les communs, c'est ça la démocratie, en fait. Hein, c'est le côté électif et le côté horizontal avec tous les tiers-lieux. Celle-là, elle est indispensable. Mais il faut qu'on puisse se baser là-dessus, parce que sinon, il suffit que le système soit bien cadré, qu'on fasse une erreur dans ce système-là, et puis ça sera foutu. Donc il faut faire très très attention à ça. Et quant à Thierry Breton, on va attendre qu'il s'explique sur le massacre d'Atos et de France Télécom, et puis après on verra si c'est un bon commissaire européen.
Tout à fait.
Non, simplement pour compléter, pour dire que le numérique, la donnée, c'est une affaire évidemment européenne, mais pas que, ça descend aussi jusqu'au niveau des territoires. La semaine dernière, j'étais au Forum des Interconnectés qui réunit toutes les collectivités en France qui prennent le sujet de la donnée et du numérique vraiment à bras-le-corps. Et on voit des gouvernances locales qui se mettent en place. Alors sur le Grand Lyon, mais on peut citer aussi Nantes ou Brest qui ont des chartes de la donnée, évidemment qui n'ont pas le même poids qu'un RGPD, mais qui font que la question de la donnée et du numérique deviennent des sujets politiques locaux. Et qui disent aussi qu'il y a des enjeux locaux liés au numérique. On parlait tout à l'heure d'impact environnemental, moi je voulais aussi parler de l'impact territorial. J'ai commencé ma carrière, moi, à Saint-Denis, en Ile-de-France. Saint-Denis, à l'époque, c'était le premier territoire d'implantation des data centers. Les data centers consommaient l'équivalent du reste de la ville en termes d'électricité. Et il y a vraiment des questions de quel est l'impact de ces data centers qui sont le côté tout à fait matériel du numérique sur le territoire et qui prenaient du foncier, créaient peu d'emplois, réservaient des câbles électriques qui du coup n'étaient plus disponibles pour créer du logement, etc. Là, il y a quelques mois, la ville de Marseille a passé une délibération aussi pour s'interroger sur l'impact des data centers sur son territoire. Et donc voilà, il y a vraiment aussi ces enjeux territoriaux qui sont aujourd'hui de plus en plus pris en compte par les collectivités, essentiellement les grosses, mais pas que.
Alors justement, là, pour vous avez prononcé le mot de capitalisme. Et effectivement, la question des données, elle naît dans ce régime, ce système économique. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, il repose sur l'extraction massive de ce qu'on appelle le surplus comportemental. Ouais, c'est ça que je cherchais. C'est-à-dire la captation, en fait, d'une survaleur travail. Mais pas simplement travail. Moi, je pensais, et on en a parlé en préparant l'émission, à la captation du temps aussi. De cette question du temps passé aux contributeurs plus ou moins volontaires, évidemment, à fournir de la donnée. Et c'était intéressant la proposition dont vous parliez tout à l'heure sur le fait de rémunérer ce temps, en fait.
Ça va même à l'encontre de l'économie actuelle qui est celle des plateformes, qui est l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'on va capter l'attention des usagers et on va faire en sorte que on passe le maximum de temps sur les plateformes, quelles qu'elles soient, tous les réseaux sociaux notamment. Et ce temps-là, effectivement, c'est de l'argent pour les plateformes à terme, hein, puisque c'est du cerveau disponible pour la consommation, hein, et les acteurs de la consommation. Et ce qu'on évoquait ensemble en préparant l'émission, c'est de se dire que, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, cette contribution... C'est le contre-pouvoir quelque part. C'est comment d'un consommateur passif de numérique, le citoyen devient un acteur. Donc ça passe par l'éducation, comme le disait Hervé, c'est essentiel. Il faudrait vraiment que l'éducation numérique, que l'enfant, presque dès sa naissance, conçoive qu'il a un jumeau numérique, mais au sens où il a une vie numérique, mais qu'il la comprenne et qu'il la maîtrise. Et donc, passer du consommateur numérique passif à l'acteur où on va produire de la donnée, mais pour le collectif, alors on évoquait OpenStreetMap, on peut évoquer une évidence, Wikipédia, c'est bien des contributeurs bénévoles, volontaires, et puis... on a plein d'autres, et puis on a tout ce qui est du ressort de l'open source que vous évoquiez. On peut penser au système Linux, hein. Tout ça, c'est des briques. On peut penser à la plateforme data de la métropole de Lyon, hein, qui a été co-conçue. Hein. Il y a un grand nombre d'acteurs qui sont venus créer des... Alors, la métropole de Lyon a beaucoup investi, mais maintenant, il y a vraiment un grand nombre d'acteurs qui co-construisent ces communs. Et donc, au lieu de le subir, là, on va co-construire son environnement numérique en prenant en compte, évidemment, ce qu'évoquait David, l'impact environnemental avec... Et peut-être qu'on peut aussi jouer avec... le citoyen aura plus conscience de son impact au travers du numérique et peut-être l'utilisera différemment. Donc, c'est toute une culture du numérique qu'il faut appréhender dès le plus jeune âge. Avec cette question, ouais, moi, qui m'a toujours intéressée, de savoir comment, presque dès la naissance, hein, on est traduit en données, quelque part, son état civil. Donc pourquoi ne pas appréhender la question du numérique au plus jeune âge pour prendre conscience de son impact pour faire monter son pouvoir sur le numérique
Voilà, la question que je me pose, c'est... Combien de citoyens vont se réapproprier leur espace numérique ? Et à côté de ça, pour combien vont être juste happés en fait, par ce qu'est le numérique aujourd'hui, c'est-à-dire les GAFAM et autres grosses entreprises qui ont un pouvoir en fait,
d'addiction
exactement, qui capte l'attention de tous les utilisateurs de n'importe quel ordinateur ou téléphone. En fait. Est-ce que ce n'est pas un peu un vœu pieux de dire on va réussir à remobiliser les citoyens pour récupérer leur jumeau numérique.
Non. Moi, je suis très réservé sur les éco-gestes, les comportements individuels et tout ça. Je trouve que c'est aussi renverser la responsabilité à un moment sur la personne qui est peut-être plus la victime que l'acteur des choses. Mais ceci dit, ce que dit Nathalie est extrêmement important parce que s'il n'y a pas cette remobilisation-là, il n'y a pas les choix politiques derrière qui font qu'on va avoir une vision système régulatif de tout ça. Parce que ça fait quand même... Enfin, j'ai jamais vu une élection qui s'est jouée sur une question du numérique. Très peu, en tout cas. Ça n'a jamais été vraiment un sujet. Si, il y a Benoît Hamon qui a perdu quand il parlait de taxe robot parce que ça a fait beaucoup rire des gens. Et du coup, on en parle maintenant. Parce que trop tard. Mais Il aurait pu, ouais, bref. Donc cette question-là, c'est que je pense que plus qu'une solution, c'est un préalable. Et peut-être ça fera bouger 10% des gens, j'en sais rien, la proportion, je ne suis pas sociologue, mais ce sera déjà ça, de toute façon. Par contre, après, il faut la régulation, parce qu'il y a un sujet, moi, qui me risse le poil régulièrement quand j'entends des trucs dessus sur « il faut empêcher les gens de faire d'user leur solution, il y a l'effet rebond, les gens sont, la techno progresse, mais les usages des gens se dégradent et du coup, c'est encore pire qu'avant. » Moi, je n'ai jamais choisi que sur mon téléphone, il y ait de la publicité vidéo haute définition qui se déclenche toute seule quand j'utilise une application. C'est le système économique qui l'a mis, ça. C'est ça l'effet rebond, en fait, dans la consommation des données. C'est pas le fait que j'utilise plus Facebook maintenant qu'il y a 10 ans. C'est pile l'inverse, mais... c'est parce qu'on a rajouté des flux sur ce que je fais qui piratent, en fait, mon attention, qui viennent me piquer de la donnée, qui viennent me piquer du temps de cerveau pour essayer de me vendre de la pub. Principalement la pub, quoi. C'est quand même ça le gros sujet, pour faire du fric à des gens. Et c'est ça qui est une énorme partie de l'impact environnemental. Du numérique, de l'empreinte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à ne pas renouveler ses téléphones. Ça, c'est vrai. Il faut faire très gaffe à la production matérielle du numérique, qu'on oublie beaucoup, qui a un impact qui est énorme. Mais même si des gens renouvellent régulièrement leur smartphone, c'est parce qu'on leur a mis dans la tête qu'il fallait qu'ils aient un plus grand écran, avec une meilleure définition, avec un meilleur appareil photo. Pour faire quoi ? Prendre la même photo du même petit déjeuner pour la mettre sur le même Instagram où il y a une pub qui sera en plus grosse définition à la fin. Et donc ça ne passe pas que par la responsabilisation des gens. Ça ne passe pas du tout par la responsabilisation des gens. Ça passe un peu par leur éducation. Ça passe beaucoup par la régulation du système. Et là, pour le coup, on est très très loin d'agir correctement.
Ouais. Et malheureusement, on disait déjà la même chose de la télé il y a 20 ans et on n'a rien fait.
Là, oui.
Et c'est de pire en pire.
On a des télé 80 pouces.
On peut quand même citer la disparition des écrans numériques dans les transports en commun lyonnais. C'est une première étape. Peut-être que c'est que le début.
Oui, puis ça date du 1er avril en plus. Ça semble croire que c'était une blague. Et peut-être pour clore l'échange, aujourd'hui, là, chacun d'entre vous, quel est dans le domaine qu'on vient d'évoquer pendant cette heure, quelle est la chose qui vous préoccupe, mais au sens de l'intérêt ? C'est-à-dire, quel est l'endroit sur lequel vous aimeriez chacun pousser un peu le curseur sur cet immense domaine qui est la question de la data ? Peut-être Nathalie Vernuspo.
Alors, je l'ai évoqué, c'est la dynamique des communs. Il y a tout ce collectif, c'est ce sentiment de réveil intergénérationnel qui nous dit qu'on peut co-construire un numérique qui nous ressemble plus, avec des acteurs plutôt qui agissent en local, donc avec un phénomène de proximité, donc qui discute. On parle. Hervé a beaucoup évoqué la question de l'humain au cœur du numérique. Moi, je sens qu'on peut faire de grandes choses avec un engagement citoyen et que ça permettra peut-être de remettre la démocratie au cœur du numérique, de faire en sorte que on s'appuie sur le numérique pour évoluer collectivement et pas individuellement. Donc c'est cette approche-là du collectif auquel je crois beaucoup et pour la préservation de notre environnement, c'est cette même dynamique. Il faut se mettre en commun et puis pour répondre aussi à ce que soulevait Hervé, effectivement, mais c'est un peu ma formation. Je crois beaucoup à la régulation aussi. Il y a un moment où il faut faire des choix politiques forts. Je pense que l'Europe, quand même, est sur la bonne voie, j'espère, hein, et que ça nous préservera de ce discours des big tech qui quelque part est un vrai risque pour nos démocraties avec les phénomènes de désinformation. Donc il faut un réveil collectif et la question des communs numériques, c'est une voie qui me semble très intéressante. Très encourageante.
Très bien, je vous remercie. Les communs numériques, peut-être David Léchiojat.
Bon, comme Nathalie m'a piqué la meilleure idée, je prends la deuxième. Non, pour moi, il y a question de mettre du sens et réfléchir au cas d'usage Pourquoi on fait du numérique? C'est un peu ce que disait Hervé Teller, on en fait des fois pour des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes. Et de réfléchir à finalement qu'est-ce qui va tirer, pourquoi, vers où on va. On l'a vu sur le Grand Lyon, il y a des cas d'usage qui ont permis de libérer des données qu'aujourd'hui vous utilisez. Par exemple, savoir combien il y a de vélos disponibles sur telle station, à quelle heure va passer le bus, quel itinéraire je peux faire en transport en commun. Il y a ce travail qui se fait au niveau national aussi. Il y a une feuille de route du numérique pour la transition écologique qui est sortie l'année dernière. Et qui liste les 150 cas d'usage prioritaires pour la France sur lesquels travailler en commun. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça donne un cap et ça dit concrètement, et on va, moi j'aime bien les choses concrètes, et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit et pas juste faire du numérique rigolo, mais qui finalement à la fin ne sert pas forcément les intérêts principaux de nos territoires.
Ok, servir les usages, en tout cas les prioriser et tenter de les servir. Et Hervé Rivano pour clore.
Ouais, je vais clore scientifiquement, pas politiquement pour une fois. Mais le sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est la capacité des outils numériques à changer, à transformer la façon dont on conçoit même la construction urbaine. Et notamment à renverser les paradigmes qu'on a renversés dans les télécoms, avec ces outils-là, qu'on est en train d'amener dans Smart Grid avec un système qui n'est plus... On change les comportements des gens pour qu'ils s'adaptent à la capacité productive du système électrique. Smart Grid, c'est plutôt l'inverse. On va réguler le système électrique pour qu'il s'adapte à la demande des utilisateurs. Et la ville, parce que c'est lent à faire évoluer, parce que c'est lourd, parce qu'il y a du béton, parce qu'il y a du goudron, c'est encore un système où... On conçoit des infrastructures et on espère que les usages vont se déployer dans cette infrastructure. Et j'essaye de voir comment on peut faire en sorte que l'infrastructure soit dynamique et se réadapte aux changements d'usage, de manière plus ou moins automatique, plus ou moins numérisée, avec toutes les questions de robustesse et de résilience qui arrivent derrière, parce que j'espère pouvoir contribuer à ce que ces outils soient une partie de la solution quand on va arriver dans des endroits où il va y avoir des inondations, quand on va arriver à des endroits où... parce qu'il y a... des JO, d'un coup, les gens ne se comportent pas du tout de la même manière que ce qu'il faut, qu'on a l'habitude. Et bien que le système soit toujours capable de fonctionner et à moindre coût environnemental. Et voilà, j'espère un jour contribuer à ça.
Ben magnifique. Hein. Je crois que on a plusieurs pistes, en tout cas, devant nous. On les a entendues et beaucoup de gens au travail. On vous remercie tous les trois. Et peut-être nous reprendrons cette discussion un peu plus tard pour faire des points d'étape sur toutes les horizons que vous nous avez fixés. On vous remercie beaucoup.
Merci de nous avoir réunis.
Merci beaucoup. On rappelle juste que toutes nos émissions sont à écouter et à retrouver en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes. Passez une très belle soirée.
Y compris GAFA.
Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.